Bonsoir les auditeurs amoureux des livres. Notre époque veut des héros. Regardez la politique, on attend l'homme providentiel. Prenez la religion qui ne jure que par le sauveur ou le messie. Quant à l'économie, elle mise tout sur des patrons à poigne, sans scrupules, des surhommes. Comme en géopolitique, avec une scène internationale qui privilégie les hommes forts. N'est-ce pas, Poutine et Bachar? Mais c'est ainsi, les ruines sont de formidables tapis d'éveil pour les Terminators en tout genre. Oh, mais non, mais quelle erreur, mais n'importe quoi, sanglote la littérature. Pas du tout, notre époque n'a rien compris. Un héros, ce n'est pas ça. C'est même l'exact contraire. Un héros, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr d'en être un. C'est quelqu'un habité par le doute. Exactement comme il arrive au comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, de flancher, conscient d'appartenir à ces âmes grises, pour reprendre le titre d'un roman de Philippe Claudel. Ni blanc, ni noir, non, gris, entre deux. Et si je m'étais trompée? Et qui suis-je pour? Et pouvais-je faire mieux? D'ailleurs, chaque fois que Gustave Flaubert doit dépeindre des idiots, il décrit des gens bardés de certitudes, fermés à la nuance. Et bien justement, voilà qu'un nouveau livre reprend cette ligne. Il s'appelle « Le dernier des nôtres », signé Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Ce roman fresque brasse les personnages, mais ils ont un point commun. Ce sont des braves. Pas parce qu'ils ont bandé les muscles comme d'autres les convictions, non, mais parce qu'ils ont tenté de faire au mieux, même si parfois ils ont échoué. Premier chapitre, nous sommes à New York en 1969 dans un restaurant. Un jeune homme pressé se fige en voyant la cheville d'une femme descendre l'escalier. Coup de foudre. Deuxième chapitre, nous sommes à Dresde en 1945. Sous les bombes, une femme accouche d'un garçon et avant de disparaître, elle dit « Ne changez pas son nom, il est le dernier des nôtres ». Et c'est parti pour une intense balade entre les époques, les pays et les gens vaillants qui n'ont pas du tout le sentiment de l'être. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Et si ça, c'est pas le nom d'une héroïne de roman, nous lui demanderons ses secrets, ce sera le procès-verbal, ses goûts culturels inavouables, avant que Frédéric Becbédé, notre anti-héros préféré, ne nous rejoigne en retard.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Bonjour Clara.
Votre roman, il nous emmène alors aux États-Unis, en Allemagne, en Union soviétique. On est dans l'après-guerre, on est dans les années 70. Juste l'idée au départ, c'est les cuisines, mais c'est le genre de livre qui demande un plan béton.
Écoutez, c'est vrai que j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire et en même temps, je l'ai écrit un peu comme on fait un film, par scène. En fait, j'ai écrit les scènes les plus fortes, celles qui me sont venues en premier, celles qui m'ont un peu le plus secouée et ensuite, je les ai cousues les unes aux autres, j'ai équilibré les masses et ça s'est fait comme ça.
Comme un architecte, en fait.
Oui, il y a vraiment de ça et c'est très drôle que vous donniez cet exemple-là parce qu'à chaque fois que je commence un livre, là je suis en plein dedans, j'ai le sentiment d'être en train de construire une maison, sauf que les murs sont pas d'équerre, sauf qu'il faut faire les fondations et que pendant tout le début du roman, en tout cas, on passe son temps à essayer de mettre les choses droites et puis un jour c'est droit et c'est parti.
Donc un peu comme Stéphane Plaza. Voilà, les romanciers sont tous des Stéphane Plaza. Alors figurez-vous que moi aussi j'ai été obligée de faire un plan béton pour cette émission parce qu'il y a des tonnes de portes d'entrée dans votre livre. L'équipe est témoin, on s'est arraché les cheveux. Alors c'est foisonnant et c'est formidable. D'abord on va se concentrer sur la partie allemande parce qu'il y a deux parties dans ce livre. Bon, oui. Vous mettez en scène un personnage qui s'appelle Johann Zilch. Lui, arrêtez-moi si je me trompe, il est nazi, mais il n'est pas antisémite. Première demi-teinte.
Absolument. En fait, Johann, il fait partie assez rapidement. Il vient d'une famille assez correcte. Il a des rêves scientifiques. Et assez rapidement, il va rejoindre un certain professeur von Braun, au fond, pour construire des missiles et donc participer à un acte de guerre très vite avec Hitler et le nazisme, qui, au fond, est très, très contestable. Mais lui, le fait par rêve scientifique, aussi parce qu'il a envie de fuir sa famille, de fuir un frère absolument épouvantable qui lui a déclaré la guerre. Donc sa fuite est dans ce rêve d'étoile, d'aller dans l'espace et il y sacrifie un peu trop de choses. C'est un peu science sans conscience, n'est que ruine de l'âme.
Bravo. Mais alors vous écrivez, à l'époque où Hitler entreprit sa fulgurante ascension, Johann ne résista qu'à son frère. Et vous n'en faites pas un reproche. Donc c'est l'idée qu'on peut ne pas être lucide à un moment, peut-être.
Exactement. Et c'est ce que vous avez dit sur les âmes grises. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, il y a ces infinies nuances de gris qui, cette fois-ci, ne sont pas érotiques. Mais Au fond, qu'est-ce qui permet qu'un jour quelqu'un résiste? Qu'est-ce qui fait qu'un jour quelqu'un se dresse? Peut-être que parfois c'est pour des choses très anecdotiques. Et Johan, effectivement, lui, il s'oppose uniquement à un cercle familial. Il n'est pas un héros parce que ce n'est pas quelqu'un qui va brandir des principes, ce n'est pas quelqu'un qui va se battre au nom d'une réalité supérieure ou d'une valeur supérieure. Et bizarrement, c'est l'une des jeunes femmes, la femme de son frère, qui est la plus résistante de toutes, qui s'appelle Marthe, qui est dans pourtant un univers excessivement misogyne qu'était l'Allemagne en ce temps-là.
Alors, vous avez cité tout à l'heure le nom d'un personnage sulfureux qui a vraiment existé.
Cette histoire, elle a pour nous le nom d'un homme dont le destin extraordinaire scandalise le sens commun, Werner von Braun. À 45 ans, sa vie est une succession d'images dont chacune semble en contradiction avec la précédente. L'homme sur qui Hitler comptait pour raser l'Angleterre peut-il être le même qui se rendait sourire aux lèvres aux Américains à l'heure où son pays succombait ?
Le docteur Von Braun. Alors déjà, c'est un nom de méchant dans James Bond. Est-ce qu'on peut dire, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qu'il a été le savant nazi le plus plébiscité par les Alliés ?
Ah mais c'est incroyable, il est devenu une superstar, c'est-à-dire qu'il était déjà une superstar du régime nazi, très jeune. Il commence à s'intéresser aux fusées, ce Von Braun, à 13 ans, il est dans un petit club amateur. À 25, il dirige la plus grande unité du Reich avec les meilleurs savants. Et à 33, à la fin de la guerre, quand il se rend aux Américains, il a inventé les tout premiers missiles qui ont bombardé Londres. Et des missiles qui malheureusement aussi ont fait des ravages épouvantables en étant fabriqué dans les camps de Dora par des travailleurs forcés. Donc c'est un personnage assez fascinant, au demeurant très sympathique. C'est-à-dire que tous les gens qui l'ont connu disaient qu'il était charismatique, qu'il était très musicien, très éduqué. Mais là aussi, c'est quelqu'un qui a fermé les yeux, qui n'a pas voulu voir et qui n'a pas tendu la main.
Alors lui, il blanchit son CV. Hop, il est exfiltré discrètement aux États-Unis, où il va devenir le héros d'une génération. Avec les voyages sur la Lune, et personne ne saura que c'était Werner von Braun qui était un ancien nazi.
Voilà, donc cet ancien nazi est embarqué avec 117 membres de son équipe. Alors il va un petit peu dans un purgatoire texan qui s'appelle Fort Bliss, parce que pendant un moment, au fond, les Américains sont contents de l'avoir soustrait aux Soviétiques, mais ils sont aussi très contents de le laisser dormir un peu là. Et c'est au moment où commence la vraie lutte contre les Soviétiques et la fameuse guerre des étoiles, où il y a une lutte psychologique, qu'on ressort von Braun et qu'on lui permet finalement de prendre la direction du programme spatial de la NASA, de construire la fusée Saturne et d'envoyer les Américains sur la Lune. Au passage, d'ailleurs, ce qui est quand même stupéfiant, il fait des documentaires avec Walt Disney, il explique aux petits Américains le système solaire, les planètes, les étoiles, et tout le monde trouve ça parfaitement normal.
Eh bien, écoutez comment il se justifiait, c'était en 1960, c'est toujours 5 colonnes à la une.
En ce qui concerne les V2, ces projectiles étaient le sommet de la technique de fusée militaire avant et durant la guerre 39-45. Et je confesse que je ne ressentais que fort peu de scrupules à donner un maximum de développement et de puissance aux V2, bien que l'on dût s'en servir contre les villes ouvertes. Car leur effet était le même que celui des bombardements alliés contre les villes allemandes. C'était en somme un prêté pour un rendu. J'estimais à l'époque qu'en tant qu'Allemand, mon devoir était d'aider l'Allemagne à gagner la guerre, et cela n'avait pas grand-chose à voir avec le fait que j'étais pour ou contre le gouvernement des nazis.
Alors, pour l'éthique, on repassera. Hein?
Clairement, clairement. Et en plus, enfin, là, à la rigueur, l'argument du patriotisme, c'est peut-être ce qui se défend. Ce qui ne se défend pas du tout, c'est le travail forcé dans les camps. Ça, non. Et honnêtement, il n'a jamais su justifier cette partie-là. Et dans un des chapitres du livre, justement, mon héros le confronte. Et c'est un peu une génération qui en juge une autre. Et c'est difficile, malgré tout, à défendre.
Mais comment est-ce qu'une romancière, toute blonde comme ça, toute jolie, mais non, mais voilà, pas spécialement historienne, elle en vient à Werner von Braun. Est-ce que vous avez une histoire familiale qui tourne autour de ça? Comment ça se passe?
Alors, le sujet même de von Braun, non, pas d'histoire familiale, mais c'est vrai qu'un jour, j'ai vu, c'était un documentaire sur Walt Disney, et il y avait une mention de von Braun. Et le raccourci m'a paru tellement incroyable. Ces époques qui semblent très différentes, ces continents qui semblent très différents soient si intimement liés que ce passage et ce rebond et ce blanchiment soient capables m'a tellement fascinée que je me suis vraiment passionnée pour l'histoire. Et après, j'avais envie de revisiter aussi cette période de la guerre. Là, pour une raison plus personnelle, c'est que mon grand-père a été résistant, mais il a été tellement traumatisé par la libération, parce qu'il avait une image un peu fantasmée de la France quand il se battait, entre guillemets, pour elle, que quand il y a eu les femmes tondues, les règlements de compte, il a été marqué à vie. Et il n'en a plus jamais parlé. Et il est mort juste au moment où je commençais ce livre. Et du coup, je me retrouve un peu dans la position d'un de mes personnages, Rebecca, qui cherche au fond des questions dans la vie de sa mère Judith. Et moi, visiter cette époque, c'était peut-être un peu l'accompagner.
Sauf que Rebecca peut poser les questions à sa mère et vous ne pouvez plus les poser à votre grand-père.
Non, et c'est définitivement fermé et fini. Et ça, peut-être que oui, j'en ai un regret.
Du coup, vous écrivez un livre.
Voilà.
Donc, il y a des regrets qui ont des jolies formes. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, moi, j'aurais adoré vous offrir en amuse-bouche la chanson « Je ne suis pas un héros » de Daniel Balavoine, mais je n'ai pas pu, donc j'avais le choix entre soit vous la chanter,
oui, mais non,
ou de vous offrir un morceau de « Paradis ». J'ai choisi cette option. Adélaïde de Clermont-Tonnerre est avec nous jusqu'à 20h pour son roman Fleuve et Inlâchable. Mais je crois que ça ne se dit pas. Donc c'est mon côté bravitude. Ça n'est pas grave, c'est inlâchable. Il s'appelle Le Dernier des Nôtres, paru chez Grasset. Ce sont deux histoires qui s'entremêlent au grand soulagement du personnage principal. On y vient à lui. Il s'appelle Werner. Bon, Werner Zilch. Alors lui, il est américain. Il a une vingtaine d'années. Il est beau gosse et il a faim. Est-ce qu'on peut dire à Adélaïde de Clermont-Tonnerre qu'il est affamé même ?
Il est affamé. Il est affamé de plaisir, il est affamé de vie, il est affamé de reconnaissance, il est affamé de réussite. C'est vraiment... Zilch, en argot américain, ça veut dire zéro, ça veut dire rien. Et c'est un type, il veut changer son patronyme, à savoir il veut devenir quelqu'un, être tout sauf un zéro. Et il a été adopté, il sait rien de son passé, il a été adopté par une famille très simple, de la classe moyenne américaine, très aimante, mais avec qui il n'a pas tellement de points communs parce que eux sont, finalement, ils acceptent leur vie telle qu'elle est et lui, il veut changer le monde et le faire à sa main un peu.
Alors, il est un peu odieux, hein. Alors, on n'a rien contre les beaux gosses odieux. Frédéric Becbédé est chroniqueur dans cette émission, donc c'est vous dire.
Comme quoi, vous les aimez bien.
On les aime bien. Et il me fait un bras d'honneur derrière la vitre. Mais c'est, là aussi, on est dans l'idée que il n'est pas tout blanc. Et ni tout noir, ce Werner.
Pas du tout. Au départ, enfin, au tout départ du livre, il est, il est assez, enfin, c'est un séducteur, il est assez simple, il aime les femmes. Et il va se complexifier au fil du roman parce que finalement, quand on est jeune, on a l'impression d'avoir des certitudes, on a tout lu, tout vu, tout bu, on croit que le monde est comme ci, comme ça. Et la vie se charge de vous expliquer que toutes les certitudes que vous aviez sont absolument nulles et non avenues. Et c'est un peu ce qui va lui arriver, notamment en rencontrant Rebecca, cette fille, vous l'avez dit, dont il tombe raide dingue et qui, au fond, n'est pas du tout fait pour lui. Et c'est souvent quand la personne n'est pas faite pour vous que vous vous donnez beaucoup de mal pour arriver à la séduire.
Parce que lui, il est en quête des origines. Elle aussi, en quelque sorte, elle recherche quand même quelque chose. On ne va pas tout dévoiler. Elle lui dit « Je suis revenue, Verne, donc c'est Werner, parce que je ne peux pas me passer de toi. Tu es mon amour, mon homme, ma vie. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous, mais je sais que je ne peux être avec personne d'autre que toi. Je ne contrôle pas tout, je sombre parfois. Je ne t'ai rien dit parce que je savais le mal que ces choses te feraient. » Là aussi, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, on est dans cette zone grise qui est que l'amour peut provoquer des catastrophes où ça fait vraiment mal et en même temps, c'est ça qui nous fait vivre.
Oui, et dans le cas de ce couple, c'est ça qui va les souder finalement. C'est ce qui est étonnant, c'est que Rebecca, en fait, porte en elle un secret. Ce secret commence à se révéler en fait le jour où mon héros rencontre les parents. Alors, on a tous vécu ça, je pense, le moment horrible où on doit rencontrer les parents de la personne qu'on aime et on veut faire bonne impression, on veut leur plaire, on espère que tout va bien se passer. Et pour lui, ça se passe non seulement très très mal avec le père qui est arrogant, odieux et qui le méprise, mais la mère, juste en le voyant, se décompose, elle reconnaît quelqu'un en lui, quelqu'un qui lui a visiblement fait beaucoup de mal. Et à partir de ce moment-là, Rebecca disparaît et Werner va devoir comprendre quel est ce secret qui les sépare et qui est lié au passé de la mère de Rebecca.
Les plus calmes, c'est les parents adoptifs de Werner. Mais eux, j'ai un petit faible pour eux. Parce qu'eux, ils ne paient pas de mine. C'est la petite classe moyenne américaine du New Jersey. Eh bien, écoutez ce que dit Boris Cyrulnik de la figure du héros. On a l'impression qu'il parle des parents adoptifs.
C'est nous qui l'admirons, c'est nous qui reconnaissons sa valeur. Lui, il ne se sent pas héros. Lui, généralement, ces gens-là disent « je ne pouvais pas faire autrement ». Pour eux, ils vivent dans la banalité du quotidien, dans la banalité du bien. Et ils ne peuvent pas faire autrement que de tendre la main à un enfant et le sauver au risque de leur vie. Mais eux ne se sentent pas héros.
Cyrulnik parle de la figure du héros qui donc ne souhaite pas spécialement en être un. Et c'est ça qui fait sa grandeur. Et il est dans la banalité du bien. C'est un peu le cas avec les parents adoptifs
de
Werner.
C'est exactement ça, parce que les parents adoptifs de Werner finalement accueillent cet enfant avec une générosité et une empathie absolue. Et d'ailleurs au départ c'est difficile, l'enfant est très farouche, il a un parcours compliqué dont ils ne savent rien. Vraiment, ils l'apprivoisent presque comme on apprivoiserait un animal. Et ils le font avec finalement une subtilité psychologique, une douceur et une générosité que certains n'imagineraient pas justement chez des gens simples qui veulent juste tendre la main.
Alors Werner grandit et le voilà propulsé dans le New York des années 70, assez renversant. C'est là quand même où on se dit le changement c'est maintenant. Ça avait vraiment du sens. Est-ce que vous voyez un parallèle entre les années 70 et 2016?
Mais moi je vois un parallèle qui presque m'obsède, je dirais. Parce que finalement, regardez, en 2016, on fait un retour à la nature, on cherche une économie participative, on veut changer le monde tel qu'il est. Il y a une résurgence de la violence aussi qui était très présente dans les années 70. L'écologie, tout c'est thèmes-là, ils sont totalement là, présents dans les journaux, dans la vie, dans les années 70. Sauf que la différence, c'est que nous, c'est en négatif, c'est-à-dire c'est dans un regret du passé, alors que eux, c'était en positif, dans l'idée d'inventer un nouveau monde. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient une telle pulsion créative, un tel enthousiasme. Et en fait, c'est simple, c'est que justement, juste derrière eux, la génération de leurs parents avait connu ce qu'il y a de pire.
Alors, vous parlez de créativité. Dans votre livre, on va suivre Werner et son amoureuse, donc à la factory de Andy Warhol, dans un café avec Donald Trump.
Oui, là, je me suis fait plaisir.
Voilà, et à un concert de Jimi Hendrix. Et ça, c'est pour vous, c'est pour le plaisir.
Merci.
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, que vous incorporiez l'histoire avec un grand H, le véridique, à votre histoire, à vous, est-ce que ça c'est compliqué à faire ?
En fait, c'est un grand fantasme quand on veut être romancier. Le fantasme, c'est qu'on arrive finalement à changer l'histoire. Vous voyez, on s'est tous dit, ah, si j'avais fait si, les choses auraient été différentes. On a tous mis Paris en bouteille avec des si. Et là, quand on écrit un livre, eh ben justement, on peut utiliser le réel, le tordre et le mettre à sa main. Et ça, je trouve ça séduisant.
Mais vous, le fait que vous preniez des personnages qui ont vraiment existé et que vous disiez, oh bah tiens, mon petit bonhomme, il va aller se promener à la factory. Oh tiens, salut Andy, tiens, salut Jimmy, salut Donald Trump. Il y a quand même un côté, et ça suppose quand même que vous n'avez pas une vision sacralisée de l'histoire.
Pas du tout. Au contraire, j'ai une vision, c'est pour ça que j'aurais fait une mauvaise historienne. J'ai une vision très irrévérencieuse de l'histoire. J'aime bien ne pas respecter. Là, je me suis beaucoup documentée. Donc les faits historiques sont vrais, mais j'aime bien avoir un voyageur qui va se promener dans des époques que je n'ai pas connues, et ça me permet finalement de connaître tous ces gens que j'aurais aimé rencontrer et de connaître cette époque qui me semble très séduisante.
Et donc quand on n'est pas, on invente finalement.
Exactement.
Et si on veut faire rencontrer Mozart et Pinochet, eh ben les écrivains
on trouve un moyen.
Et 200 000 figurants sur une plaine. On peut, contrairement
ça
au cinéma.
Ça demande un espace-temps un peu spécial, mais on peut y arriver.
On peut. On va passer en cuisine, Adélaïde, puisque nous voudrions vos recettes. Eh oui, et pas en demi-teinte cette fois. C'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Adélaïde.
Non, votre nom. Ça commence mal.
Clermont-Tonnerre.
Prénom.
Adélaïde.
Est-ce que vous écrivez assise, couchée, debout?
Couchée.
Sur ordinateur ou sur papier?
Les deux. Papier d'abord, ordinateur après.
Est-ce que vous raturez?
Oui, je rature, je réécris, je colle des petits bouts de papier, je m'amuse comme un enfant avec des morceaux de papier et de crayon.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez quand vous êtes en période d'écriture ?
Non, et je me fais injurier pour ça d'ailleurs. Parce que les gens supportent pas qu'on leur réponde pas dans la minute. Je coupe le téléphone.
En période d'écriture, avec vos proches, vous êtes d'une humeur de dogue ou vous résistez et la politesse résiste ?
Alors, je suis pas d'une humeur de dogue, mais je suis totalement absente et excessivement maladroite. Je deviens complètement maladroite, je fais tomber les choses, je me cogne partout, je mets mon portable dans le frigo. Je suis absolument invivable pour ça, parce que je suis tellement absorbée par ce que je suis en train d'imaginer que je n'arrive pas très bien à m'adapter aux angles des meubles et de la réalité, justement.
Vous pouvez pleurer ou éclater de rire en écrivant?
Ah oui, non mais moi c'est terrible. Il y a certains passages de ce livre où j'étais une madeleine en train de sangloter, ce qui est assez ridicule. Et ce qui est magique en même temps, c'est que les endroits où j'ai ri et où je me suis amusée, les quelques lecteurs là, que je rencontre me disent qu'ils ont ri et qu'ils se sont amusés. Donc ça me fait plaisir. C'est un peu de la magie noire.
À quoi ressemble votre pause ?
Ma pause, je fais un truc complètement bizarre, c'est que je ne sais pas pourquoi à chaque fois que j'écris un texte, j'ai envie de déménager. Donc en général, je regarde les agences immobilières sur Internet pour essayer de déménager.
Merci Adélaïde, vous êtes libre.
Merci
comme
beaucoup.
On parlait de la bande à Warhol tout à l'heure, eh ben, ça s'impose évidemment, c'est Lou Reed.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Count of 3 says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly, fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Dirty Boulevard de Lou Reed. Vous écoutez la Muse-Bouche sur France Inter jusqu'à 20h. Notre invitée, c'est Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour le dernier des nôtres. Adélaïde. Voilà. Oui, 13 années 70, hein, cette sonnerie.
Ah oui,
oui j'arrive. Merci. Bonsoir, bonjour. Frédéric.
Bonjour, les, bonjour, mesdames.
Voilà, un peu impatient.
Bon, désolé.
Oui, c'est en retard.
J'étais interrogé par la DGSE qui voulait savoir ce que je faisais pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ça.
Et j'aurais dit que j'étais né après. En fait, mais ils n'avaient pas les bonnes dates.
Ouais, enfin, c'est pas grave. Non, mais c'est pas évident à savoir non plus quand on vous voit.
Oui, merci beaucoup. Ouais. Comme chaque semaine, vous n'avez pas fait tout le travail, bien
non,
sûr.
Non, je comptais
Clara,
sur vous.
Vous vivez dans le présent.
C'est ça.
Vous êtes dans l'immédiateté.
C'est ça.
Voilà.
Mais il me semble que c'est une qualité.
Non, pas du tout. Il faut penser à l'œuvre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
C'est vrai.
Puisque ce n'est pas son premier roman. Elle avait eu le prix François Sagan pour Fourrure en 2010.
Fourrure.
Oui.
En 2010.
Et figurez-vous que un analyste fin et lettré comme moi a vu beaucoup d'obsessions qui traversent les deux romans d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Ah, j'imagine. Vrai.
Bien sûr. Bah, d'abord, les années 70, vous l'avez dit, mais dans le précédent aussi, c'était l'histoire d'un récit dans le récit sur la vie de Zita Chalitzine, écrivain et fille de Madame Claude. Donc il y avait un portrait des années 70 déjà dans ce livre précédent. Et ça vous embouche un coin.
C'est vrai, ouais. Vous m'épatez, Frédéric.
Il y avait aussi le récit dans le récit, dans le dernier des nôtres. Mais c'est pas tout. C'est que c'était surtout, en fait, j'ai l'impression, en fait, ce qui vous obsède, Adélaïde, c'est de comprendre la génération qui précède.
Oui, complètement. C'est exactement ça. Et les années 70, c'est la jeunesse de mes parents. Et je crois que j'ai envie de les rendre immortels. Donc je passe mon temps à y retourner, à voir. Et puis j'adore cette décennie parce que c'était pas l'argent qui comptait. Et c'est peut-être la seule décennie où ça n'a pas été le sujet. Puis il y a cette liberté où on roule vite, on couche avec à peu près qui, on veut, on fume, toutes ces choses qui sont un peu interdites maintenant.
On couche avec à peu près n'importe qui, vous avez voulu dire ça.
Voilà,
et
tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, voilà, on pouvait le faire.
C'est justement ce dont je voulais vous parler, puisque page 11 du dernier des nôtres, vous dites pour coucher avec une fille, il faut A, B, C, D, il y a 4 conseils. Je voulais
rester à des non mais ne partez
pratique,
pas peut-être. Non bon, alors,
peut-être
bon.
Je vais les mettre en pratique non pour voir si ça marche. Donc c'est pour voir si ça marche.
Donc est-ce que c'est quoi votre technique à vous alors est-ce que vous pouvez la théoriser?
Alors, écoutez, je vais prendre la vôtre, fait. On va voir. Oui. Donc pour coucher avec une fille, A, il faut trouver ce qu'elle a de beau et lui montrer que vous l'admirez. Vous avez les cheveux propres, Adélaïde.
Il souhaite coucher avec vous,
de
je crois.
De ce matin. Oui.
Voilà. Donc voilà. Alors B, demander voire quémander du sexe. Alors ça, pour ça, je vais vous dire que j'aimerais bien vous toucher la poitrine comme on règle l'eau chaude et l'eau froide sous la douche.
Voilà.
Ça va ?
Attends, amis auditeurs,
attention.
Bonsoir.
Alors.
Oui, ça, c'est juste un des personnages qui n'a jamais approché une fille. Et la première fois où il a l'occasion de toucher des seins, il ne sait pas très bien comment s'y prendre. Donc, il est assez maladroit et c'est un peu comme on règle l'eau chaude et l'eau froide sous la douche.
Voilà, ça, c'est une citation hein, du livre.
Je ne me serais pas permis.
Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Toujours ajouter à cette demande suffisamment d'humour pour ne pas perdre la face quand elle vous dit non. Par exemple, je pourrais vous dire que j'aimerais m'enrouler autour de vous comme du lierre à un arbre. Page 15. Je cite l'auteur.
En fait,
qu'est-ce qu'il y a
pour draguer l'auteur,
je cite l'auteur.
Vous le citez lui-même.
Bien sûr.
C'est ça.
Oui. Et ça a marché, elle rigole. Elle
oui,
rigole.
Je rigole, c'est vrai.
Elle s'auto-amuse.
Attention, Adélaïde, je serai vous, je mettrai les freins.
Et alors,
vous savez pas qui vous avez affaire.
Il y a une quatrième étape, rester simple et concret en évitant de lui envoyer 3 pages de citations littéraires. Donc en fait, je me suis planté.
Ah, mais c'est ce que vous venez
c'était
de faire.
C'était ce qu'il fallait pas
ah, ben,
faire.
Voilà, vous me faites rire aussi, après ça vient pleurer.
Complètement enfin, planté.
Frédéric.
Bon, j'ai quand même une question pour finir tout ça, parce que là, c'était vraiment très très grivois. Ancienne élève de Normale Sup, dirigeant Point de Vue, ce qui est déjà un paradoxe.
Le journal Point de Vue, Image du Monde.
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, finalement, quand on vous lit, il y a un style qui est enlevé, qui est vif, qui est pas révolutionnaire non plus.
C'est
pas une obligation.
Vu mon nom, je pouvais pas être révolutionnaire non plus.
Mais j'aime cette fille pour la répartie, mais bravo!
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement,
quand
on est normalienne, on a étudié à la fois l'histoire de la littérature, mais aussi peut-être aussi la modernité, la littérature d'avant-garde. Pourquoi êtes-vous plus proche de Dumas que de Duras?
La question.
Mais parce que moi, Dumas m'embarque, il me fait rêver, j'ai envie de le rester avec lui, j'adore ses personnages. Il y a une anecdote de Dumas que j'aime beaucoup, c'est Dumas père qui est dans son bureau, il est en larmes Et Dumas fils rentre et il dit « Mais papa, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Dumas père dit « Porthos, l'un des héros des Trois Mousquetaires, vient de mourir. » Et il sanglote. Sans doute que je suis un peu lacrymale comme Dumas, mais c'est vrai que moi je m'attache à des héros et j'aime bien les suivre. Et que Duras, elle m'impressionne. Mais elle ne me touche pas comme ça.
Et Dumas qui disait « J'aime violer l'histoire pour lui faire de beaux enfants
oui. ». C'est comme quoi, ce finalement, oui, sans le savoir, c'est tout à fait ça.
Voilà, et ça réunit la grivoiserie de Frédéric et l'ambition littéraire de vous.
L'art de la synthèse de Clara est stupéfiant.
C'est quand même Alexandre Dumas qui aura béni votre union. Alors passons aux inavouables, tant qu'on y est. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous avez beau avoir un nom sublime d'héroïne proustienne quand même, vous n'en êtes pas moins humaine. Eh, je vous l'apprends. Donc, pétrie de secrets. Nous les voulons. Y a-t-il un tube, une série, un film, quelque chose un peu ringard, un peu kitsch que vous aimez secrètement? Ou pas secrètement d'ailleurs.
Oui, c'est pas si secret que ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le summum du kitsch qui est Brice de Nice et que j'attends avec impatience, non pas le numéro 2 puisqu'ils sont passés directement au 3. Et je trouve qu'il a un jeté de cheveux, un rapport à la vague, la quête philosophique de la vague qui me touche beaucoup. Et au fond, j'ai envie de vous demander, ça farte ?
Il va répondre.
Salut Bryce, ça farte ?
Salut Bryce, ça farte.
Prêt pour la leçon de casse ?
Complètement d'accord.
Ok, alors jambe gauche fléchie, droite tendue, comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses.
Dans le studio, spontanément, on fait le geste. Le geste, mais c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a un classique, Adélaïde, qui vous tombe des mains ?
Alors là, pour le coup, j'ai honte. C'est vrai. Et je réessaye tous les 10 ans. C'est Anna Karenine. Et à chaque fois.
Non.
Ah non, mais je vous assure. Oh, je n'y arrive pas.
J'adore ça.
Oh,
bah,
pourtant, c'est romantique.
Oh, mais oui. Voilà, mais c'est trop romantique. D'abord, les prénoms russes, les noms russes, je m'en mêle les pinceaux. Je passe mon temps à revenir en arrière pour savoir de qui il parle. L'héroïne m'exaspère. Elle n'arrête pas d'avoir des états d'âme, de regretter, d'être coupable. Et oui, elle cède. Et puis non. Et puis ça recommence. La fin est sinistre. Le couple méritant m'exaspère. Alors, et bon, et j'essaye, parce que tout le monde adore ce livre autour de moi et je me dis que j'ai un problème et j'espère un jour le régler.
C'est l'heure de passer à table, Adélaïde. Avant de régler votre problème, nous avons faim, nous aussi, mais comme votre Werner est comme un peu Anna Karenine, qui a fin de vie quand même, elle termine mal, mais enfin, elle a quand même fin de vie. N'oubliez pas de glorifier vos doutes et vos incertitudes. Ça fait de vous un héros, le dernier des nôtres d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre est paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevrons Emmanuel Pirotte pour De Profundis, un roman sur la fin du monde, paru au Cherche Midi. L'amuse-bouche est le fruit de super-héros tels que Marie-Annick Rimbaud, Laure Grand-Besançon, Thierry Dupin et Dimitri Gronoff. Tout de suite, et pour rester dans l'héroïsme, cette expression directe, et après 20h, place à Zoé Varier pour D'ici et d'ailleurs. Bonne semaine, à samedi, on vous embrasse nos auditeurs super-héros.